Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver après ce beau week-end. Nous sommes ensemble sur Calade dans cette émission en direct jusqu'à 14h. C'est un beau lundi aujourd'hui pour passer un bon moment ensemble. Il fait beau, il fait pas trop chaud, avec des températures autour de 21 degrés, des maximales annoncées à 24 cet après-midi. Et c'est le temps que Météo France nous annonce pour demain, comme pour toute la semaine en fait. Du soleil et des températures autour de 24 degrés, que demander de plus? Eh bien, pourquoi pas des invités passionnants pour cette première émission de la semaine. Ça tombe bien, c'est au programme, puisque nous recevrons aujourd'hui Alexis Vallon, principal du collège Jean Moulin à Villefranche. On lui demandera évidemment comment se passe la reprise dans cet établissement. Eddy Bernard nous parlera de l'actualité sportive dans le Beaujolais. On recevra Pierre Fessaguet du groupe Orso, groupe de rock du Beaujolais. Bertrand Lamure de la librairie des Marais nous proposera son conseil lecture hebdomadaire. Georges Botton sera de la partie pour sa rubrique Mais la 11e. Et puis on terminera l'émission avec Benjamin Jaïr de l'association Perma Cabadio, association avec un nom assez clair puisqu'elle propose d'apprendre à pratiquer la permaculture à Cabadio. Perma Cabadio, tout simplement. On en parlera donc avec Benjamin Jaïr en fin d'émission. Mais pour commencer, notre premier sujet étant la reprise des écoles, je vous propose de revenir en enfance tout de suite. Et on va le faire en musique avec Alain Souchon qui a toujours 10 ans. Merci d'être avec nous. Il est 12h14 et nous sommes le lundi 25 mai. On est ensemble sur Calade.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est des cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré.
Il Il a 10 ans, Alain Souchon, et l'avantage peut-être des distances sociales, c'est qu'en ce moment, il ne peut pas y avoir de bagarre et de tarte à gueule à la récré.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et allez, il est l'heure de recevoir notre premier invité, justement, de récréation. On va peut-être en parler avec lui. C'est Alexis Vallon, principal du collège Jean Moulin à Villefranche. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien, je vous en remercie.
Alors, vous êtes principal donc, du collège Jean Moulin à Villefranche. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement pour qu'on le connaisse un peu mieux ?
Alors, c'est un établissement qui a 550 élèves, qui sont pour une forte majorité issus de deux quartiers, on va dire un peu fragiles, qui est le quartier de Béligny, pour l'essentiel de tous les élèves de Béligny, et le quartier de Belle-Roche, et puis le reste des élèves sont des élèves plutôt qui sont sur la place du Promenoir. C'est un établissement, moi, que j'ai envie de présenter comme étant un établissement très très dynamique, où on est multi-projet.
Ouais. Alors effectivement, j'ai fait un tour là récemment sur votre site internet. Dans la page actualité, il y a plein d'articles régulièrement, et j'ai l'impression que il y a plein de projets lancés. Je sais pas si on peut dire périscolaires ou simplement des projets de vie scolaire pour les élèves, pour qu'ils s'impliquent dans différentes activités.
Alors, il y a des projets. On peut considérer périscolaire, ça c'est l'école ouverte. On est un établissement qui est classé, ce qu'on appellerait plus. Donc c'est un établissement où il y a une majorité de familles qui ont des difficultés sociales. Et donc on a cette possibilité de monter un projet école ouverte. Ça veut dire en général c'est 2 à 3 jours pendant les vacances scolaires. Sur toutes les vacances scolaires, c'est celles de vacances scolaires.
Ah, on a un souci d'interférence, Alexis Vallon. Est-ce qu'on vous entend bien ? Allô ? Et non, on a perdu notre invité, alors c'est les aléas du direct. On va essayer de le retrouver. Je vous propose une petite pause musicale et on retrouve notre invité tout de suite. Voici Tom Petty and the Heartbreaker. Il va nous apprendre à voler, Learning to Fly.
Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days.
Voilà un petit extrait de Tom Petty and the Heartbreaker, le temps de retrouver notre invité par téléphone. Donc Alexis Vallon, principal du collège Jean Moulin, vous nous parliez de l'école ouverte.
Oui, donc on accueille donc pendant les vacances scolaires, sauf celle de Noël, on accueille donc 3 jours par semaine des enfants. En général, c'est entre 50 et 60, ça veut dire à peu près 10% de nos effectifs. Donc il y a toujours un projet qui est construit avec une approche un peu plus ludique, mais toujours avec une approche éducative et pédagogique lors de ce moment d'école ouverte. Et tous les mercredis après-midi, on a aussi un atelier d'art plastique où la collègue est ultra engagée. Et donc c'est un atelier qui est très très vivant, qui monte des projets en partenariat avec l'aglo, avec la mairie. Là en ce moment, avant le confinement, ils avaient pris possession d'un appartement sur Belle-Roche, et ils étaient en train de travailler sur un projet dans cet appartement, un des immeubles qui va être détruit.
Et puis aussi, on peut parler du projet. On avait reçu un de vos élèves il y a quelques semaines sur Calade pour un concours d'éloquence, par exemple, qui avait été lancé.
Tout à fait. Et donc, justement, j'ai cette chance d'avoir une équipe ultra engagée. Et donc, on a vraiment des projets, X projets, et notamment un des projets. C'est l'atelier éloquence, et notamment cet atelier. Cette année, ils ont été au mémorial des Tatas sénégalais à Chasselet, hein, en présence du préfet. Donc, notamment, ils ont donc lors de la commémoration, ils ont été au mois de juin à Paris, donc à l'Assemblée nationale, à l'invitation de M. Perru, le député. Et ils ont même eu ils ont décliné. Devant la statue de Victor Hugo, un moment d'éloquence.
Donc plein de beaux projets comme ça qu'on retrouve dans ce collège. J'imagine que les élèves n'ont pas le temps de s'ennuyer.
Non.
et un collège connecté aussi, apparemment.
Oui, un collège connecté. On a mis en place un parcours numérique. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans un établissement où il y a quand même un certain nombre d'élèves qui sont dans la difficulté sociale. On a pris conscience assez rapidement qu'il y avait une fracture numérique avec un certain nombre de familles qui n'avaient pas forcément la possibilité soit d'avoir Internet, soit d'avoir des outils numériques, ce qui a été vraiment aussi préjudiciable pendant cette période de confinement. Et donc, on a monté ce parcours de la 6e à la 3e avec une validation qui permet aux élèves de partir du collège avec une
évaluation
de leur niveau de compétence.
Donc une évaluation à la fin du cursus qui permet de montrer les compétences sur les outils numériques.
Qui atteste leur niveau, et c'est basé sur... c'est issu de ce qu'on appelle le socle européen de compétences numériques.
Il y a un peu le cliché des jeunes qui sont tout le temps sur leur smartphone et qui sont très à l'aise, on l'imagine, sur les outils numériques. C'est le cas ou pas forcément?
Alors, c'est le cas sur les smartphones. C'est pas le cas, par contre, on s'est rendu compte que c'était pas le cas sur les ordinateurs, on va dire, un peu plus classiques, ordinateurs portables, ordinateurs fixes. Ils sont très à l'aise sur une tablette, très à l'aise sur un smartphone. Et donc, on leur apprend dès la sixième à travailler, à tout ce qu'on peut imaginer pour le traitement de texte, le tableur, création de diaporamas, sur un réseau, ranger des documents, etc. Donc sur un ordinateur portable ou fixe.
Et puis envoyer des mails et toutes ces choses qui professionnellement serviront de toute façon quelques métiers qu'on puisse faire. C'est des outils qu'on utilise au quotidien.
Bien sûr, oui, exactement. C'est partie de la panoplie qu'on essaie de leur donner dès la sixième et qu'on continue pendant les trois années suivantes dans les enseignements.
Et ce projet, c'est le parcours numérique qui a été mis en place. Ça existe depuis combien de temps?
Alors ça existe depuis cette année en fait. On l'a mis en place, on l'a monté l'année dernière et on l'a lancé cette année scolaire, hein, depuis septembre. Ça existe depuis septembre 2019.
D'accord, donc ça tombait bien parce que justement cette année, j'imagine qu'il a fallu s'en servir de ces outils numériques. Justement, est-ce qu'on peut parler de cette période de confinement? Comment est-ce que ça s'est passé pour vos élèves?
Ben, ça s'est passé... Alors si on parle en matière numérique, alors, on va faire par étapes. On a essayé de toujours garder un temps d'avance pour anticiper au maximum, pour les accompagner au mieux. Donc, notamment les équipes pédagogiques tout de suite se sont emparées de la situation et ont noué un lien à la fois avec les jeunes et avec leurs familles. Donc, je me dis ça va être très bénéfique et on l'espère dans les mois qui arrivent, ce lien nouveau, je dirais, et peut-être différent qu'on a pu créé avec les familles et les jeunes. Puis on a essayé de prendre la mesure aussi de leurs besoins réels, à la fois en outils numériques et aussi en termes d'appareillage numérique. Hein. Avoir une imprimante, ça peut paraître peut-être pour certains une évidence. Pour nos jeunes, c'est une rareté. Donc à la fois, on a essayé de les outiller en appareillage par des tablettes que nous a prêté le conseil départemental du Rhône. Donc on en a reçu 27 et là on vient d'en recevoir une quinzaine. Donc on outille ceux qui ont une connexion internet mais pas d'appareil
pour outils,
c'est-à-dire ils ont peut-être pour tout, peut-être enfin on va dire un smartphone essentiellement pour recevoir leur travail. Et on a mis en place des pochettes pédagogiques. On en a fait passer toutes les semaines à peu près 115. Et là, vous voyez, depuis le retour, même après confinement, on a une vision un peu plus précise. Et cette semaine, on en a dépassé à peu près 130.
130 pochettes pédagogiques en une semaine, voilà. Pour les élèves. C'est pour qu'ils aient un support de travail, s'ils n'ont pas papier. D'imprimante, un support papier pour pouvoir travailler plus efficacement.
Oui.
Garder le contact comme ça, vous nous avez dit que vous aviez plus de 500 élèves au collège. Garder le contact avec chacun, j'imagine que ça a été compliqué, surtout si certains n'ont pas forcément l'ordinateur pour pouvoir lire les mails, la tablette.
Tout à fait. Donc, très honnêtement, on a eu à un moment donné 21 élèves, ce qu'on appelle ce que le gouvernement appelait les perdus de vue. Donc, alors moi je regarde le côté positif, ça veut dire qu'on a plus de 530 à qui on a gardé ce lien, et alors par le téléphone, par Pronote, on a utilisé un logiciel qu'on utilise qui est Pronote, c'était le moyen de basculer les informations et de communiquer, c'est notre plateforme de communication, et on a donc ces fameux 21 élèves qui sont réduits au... Je dirais qu'on en avait 4-5 qui cherchaient pas trop à se connecter, mais qu'on a pu récupérer. Et malheureusement, les grandes victimes seront les 15-16 vraiment perdus de vue, ce que j'appelle les perdus de vue. On a une dizaine de jeunes migrants, en fait, qui sont dedans, en fait. Mais ma satisfaction, c'est qu'on est bien en dessous des moyennes nationales données par le ministère.
C'est une majorité d'élèves qui est restée en lien avec les enseignants. Et vous avez dit que ça crée un lien particulier. Il n'y a plus la relation du professeur derrière le tableau et chacun derrière son bureau. C'est un contact, ça doit être une nouvelle relation qui est mise en place.
Tout à fait, c'est une nouvelle relation. Et puis ce qui est même assez surprenant, c'est qu'on a des élèves qu'on pouvait penser pas très scolaires, notamment... je pense à un ou deux élèves d'une classe de troisième qu'on a, qui était aussi un projet du collège, projet pro, c'est-à-dire leur ouvrir un peu l'accès au monde professionnel avec des partenariats, notamment avec Très Beaujolais. Et on a deux élèves que j'ai un peu dans ma tête à l'instant où on parle, qui n'étaient pas, on ne peut pas dire très scolaires, et qui demandent de revenir à l'école, qui ont très envie de revenir parce qu'ils ont. Je crois que ça leur a donné la mesure aussi de la chance qu'ils avaient d'être à l'école. Donc c'est tous ces liens, la bénéfique, puis avec les familles aussi. Les familles ont vu que l'investissement des collègues, le lien qu'ils cherchent à créer, le suivi qu'ils avaient régulier avec les enfants, à travers l'accompagnement pour leur travail, à travers cette prise de renseignements, en fait. Et ça, ça a été très apprécié.
Et justement, la reprise, là, les élèves qui veulent reprendre l'école, alors comment ça s'est mis en place, la reprise, c'était le 18 mai, c'est ça ?
Oui, on a repris, les élèves ont repris le 18 mai. La reprise, pour nous, elle est, je dirais, assez satisfaisante, sachant que l'objectif est de recréer ce lien, justement, renouer ce lien en présentiel, en présence donc dans l'établissement pour les 6e, 5e, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu ce qu'on nous demande au niveau ministériel, le travail se fait malgré tout aussi en distanciel. On ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Et on a 30% des effectifs qui sont de retour, ce qui est plutôt très encourageant au vu de ce qu'on voit au niveau académique.
Donc la reprise, c'est surtout pour les 6e et les 5e.
Actuellement, c'est les 6e, 5e. Ça, c'est la demande du ministère. On attend les directives pour fin mai, savoir si on fait revenir les 4e, 3e aussi en présentiel. Moi, je dirais que c'est plutôt satisfaisant on va dire le nombre d'élèves qui sont présents pour commencer. Et notre objectif, c'est de tous les faire revenir. Alors, pas toute la semaine, on peut pas, avec les conditions sanitaires qu'on nous demande, mais qu'on puisse renforcer ce lien qu'on a noué pendant le confinement et qu'on puisse aussi avoir un regard précis sur leurs besoins, notamment en numérique, en pochette pédagogique, et qu'on puisse donc les accompagner au mieux quand ils sont en distanciel, donc le reste de la semaine où ils sont pas en face de nous, quoi.
Et au niveau des règles sanitaires qui sont assez strictes à mettre en place, comment les élèves réagissent, même l'équipe enseignante, est-ce que c'est compliqué? J'imagine que c'est compliqué à mettre en place.
Alors c'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais c'est bon. Alors d'aujourd'hui, ça paraît sécurisant et nécessaire. Ça a été construit très étroitement avec le conseil départemental, qui a même choisi que l'établissement soit un établissement pour eux test. Donc on l'a travaillé en amont. On a eu des réunions très de suivi réguliers. Alors déjà pendant le confinement, parce qu'on faisait partie des établissements qui étaient susceptibles d'accueillir des personnels, des parents qui étaient mobilisés, notamment au niveau sanitaire. Donc on a déjà noué des liens aussi très étroits, je dirais qu'on a amplifié avec le conseil départemental du Rhône. Et dès la reprise, on a travaillé avec eux pour mettre en place, avec les agents du département qui sont dans l'établissement, le maximum de sécurité pour tout le monde. Et on a travaillé avec les personnels, avec les fédérations de parents et donc de parents d'élèves, pour que la construction d'un protocole de réouverture et sanitaire soit le plus sécurisant, et ça a été validé par tout le monde, j'irai le 12 mai.
D'accord.
Une semaine avant, on était prêt.
Ouais, c'était ça n'a pas été simple de partout à mettre ces protocoles en place. J'ai l'impression que être en avance, c'est ce que vous nous avez dit en premier au cours de cette interview, c'est prendre de l'avance sur toutes les mesures qui doivent être mises en place. Et puis vous nous avez aussi beaucoup parlé d'investissement des enseignants, et j'ai l'impression que ça paye et que ça fonctionne.
Oui, c'est une chance. C'est une chance d'avoir une équipe. Souvent, je vais souvent. Oui, mon mot souvent est mettre équipe en avant, mais c'est un travail d'équipe. Et cette équipe est toujours partante, toujours solidaire, dynamique, et c'est très agréable de travailler avec eux.
Bon, j'ai l'impression que le bilan qu'on peut faire de cette reprise et de ce confinement est assez positif pour le collège Jean Moulin. On vous souhaite une bonne continuation pour tout le mois de mai et jusqu'à fin juin, jusqu'aux prochaines vacances scolaires.
Je vous en remercie, et de la même manière, je souhaite moi une bonne reprise aussi à tous les collègues, parce que je sais que c'est pas. Et voilà, on est tous, quand j'ai dit tous les collègues des autres établissements, parce que on donne tous notre maximum pour que ça se passe bien, et voilà, on espère que ça se passe bien pour tout le monde.
Et ben oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup Alexis Vallon de nous avoir parlé un petit peu de ce qui se passe donc au collège Jean Moulin à Villefranche. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt peut-être sur Calade.
Et ben, avec grand plaisir, merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Allez, on va parler sport dans quelques instants avec Eddie Bernard, mais tout de suite je vous propose une petite pause musicale, un peu de rock, voici Cathédrale avec Gold Rush.
We'll be right back.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
C'est Gold Rush avec le très énergique titre Cathédrale. On retrouve tout de suite Eddie Bernard sur Calade, animateur de l'émission Recto Verso, mais aussi spécialiste sportif pour nous dans ce rendez-vous hebdomadaire du lundi. On prend des nouvelles de l'actualité sportive. Bonjour Eddie.
Oui, bonjour. Spécialiste, c'est peut-être un petit peu usurpé. Passionné, allez, admettons.
Passionné de sport.
Ça va bien, Mathieu ?
Ça va, et toi ?
Écoute, ça va très très bien avec cette météo de nouveau redevenue pleinement printanière, hein, qui donne envie aussi de faire du sport, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
On a parlé rugby, on a parlé foot. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Eddie ?
Alors, l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine, elle est liée au basketball, parce que
oui, tu avais des annonces,
je t'avais laissé entendre la semaine dernière que mes oreilles avaient été bien aiguisées et étaient prêtes à vous annoncer des choses liées donc à notre club de basket référence dans notre territoire, Beaujolais Basket. On aura un petit mot de football rapide et également un petit mot de cyclisme aujourd'hui. Voilà, on va essayer de faire tout ça dans le temps imparti. Ce sont, Mathieu, les transferts, bien évidemment, qui nous occupent en ce moment, parce que l'actualité sportive, en termes d'activité ou de résultats, bien évidemment, elle est pour l'instant en sommeil, comme tu le sais, mais on prépare activement dans les clubs de la région. On prépare activement la saison prochaine. Avec les premiers mouvements, on a évoqué donc en premier la situation FC Villefranche-Beaujolais ces dernières semaines. Notre club de football de National n'a pas connu ces derniers jours de nouveaux mouvements très significatifs, hormis cette fois, on le sait, le départ consommé de Samy Belkorchia, l'une des figures tout de même de l'équipe 2019-2020, qui va tenter l'aventure sous d'autres cieux. Il ne nous a pas encore révélé sa destination, mais probablement un niveau au moins égal, si ce n'est supérieur. Donc les dirigeants du Football Club Villefranche-Beaujolais, évidemment, vont continuer à chercher des renforts pour préparer l'équipe de la saison prochaine. L'essentiel aujourd'hui, je te le disais, c'est le basketball qui nous intéresse avec Beaujolais Basket. Et je te laissais entendre que l'effectif 2020-2021 commençait à prendre forme et que deux signatures étaient sur le point d'aboutir. Eh bien, elles ont abouti toutes les deux en fin de semaine, là, pendant le pont de l'Ascension. Et la plus importante, tout d'abord, eh bien, c'est celle du nouvel entraîneur, du nouveau coach, puisque Romain Tillon a décidé de retourner dans son club cher à sa formation, à son enfance, entre guillemets, les Enfants du Forest de Feur. Et donc, pour mener l'équipe qui, rappelons-le, était première du championnat National 2 et qui pouvait rêver à l'accession en National 1 la saison prochaine, eh bien le nouvel entraîneur, on le connaît, il s'agit d'un personnage dans le basket, et il s'agit de Jean-Paul Rebattet. Alors, qui est Jean-Paul Rebattet ? Je sais que tu n'es pas un spécialiste du basketball, mais c'est un entraîneur très réputé parce que il a près de 70 ans, certes, mais il a une carrière qui est plus longue que mon bras, mon cher Mathieu. Il a exercé au plus haut niveau, puisqu'il a entraîné les équipes professionnelles de Pro A à l'époque, de Cholet Basket, bien entendu, de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, c'était au début des années 90, et puis il est passé également par le Paris Saint-Germain Racing, comme il s'appelait à l'époque, le Racing, club parisien. Enfin, il a entraîné au plus haut niveau dans de très très nombreuses équipes, et puis également plus récemment dans des championnats nationaux. Et donc il abandonne une équipe de National 3 pour venir rejoindre Beaujolais Basket. Son projet était peut-être d'être plus dans un rôle plus de directeur sportif, si tu veux, que de véritable entraîneur. Mais là où ils se sont mis d'accord avec les dirigeants de Beaujolais Basket, eh bien, c'est qu'il sera assisté de Butch Yaïssi. C'est un nom qui te parle certainement, puisque c'est celui qui était, il y a quelques semaines encore, le capitaine en tant que joueur de Beaujolais Basket, le meneur de jeu, eh bien, Bougie ici devient son assistant. Donc, on a un duo, une espèce de fonctionnement à deux têtes, si l'on peut dire, pour la saison prochaine, avec le jeune néo-coach assistant Bougie ici et l'expérimenté Jean-Paul Rebattet. Ce duo-là, donc, sera à la tête de Beaujolais Basket la saison prochaine. Et puis, la deuxième officialisation faite pendant cette fin de semaine dernière et le pont de l'Ascension, c'est une arrivée. Je te l'avais dit, Thibaut Alexis, l'ailier fort, qui avait fait une très très belle saison, eh bien, a quitté le club parce qu'il a été sollicité par un club de National 1, le club de Vitré. Donc Beaujolais Basket n'avait pas évidemment la possibilité de s'aligner sur une proposition comme celle-là. Eh bien, le départ de Thibaut Alexis va être compensé par une arrivée pour ma part, je trouve vraiment une excellente nouvelle. Il s'agit de l'ex-capitaine et joueur emblématique de l'équipe de Niort dans les Deux-Sèvres, qui jouait déjà en National 2, bien sûr. Mais c'est un joueur qui vaut 14 points par match en moyenne dans la dernière saison à Niort et qui était véritablement un leader, un capitaine. Il s'appelle Ribar Beikoua et c'est une arrivée vraiment de grande qualité, je crois, pour Beaujolais Basket. C'est un élément qui va renforcer encore cette belle équipe. Saison prochaine, donc très très bonne nouvelle du côté des arrivées, des transferts pour le basket Beaujolais, avec ces deux signatures donc qui font évoluer l'effectif autour de ceux qui restent, puisque je te l'ai déjà dit, Mathieu Simon a prolongé, tout comme le meneur de jeu Florent Cornéo, la plupart des joueurs intérieurs, Marius Valukonis notamment, qui était le meilleur dans ce domaine tout au long de la saison. L'équipe de Beaujolais Basket pour l'instant se dessine comme ayant fière allure. Il reste tout de même trois postes à compléter pour avoir une équipe complète pour la saison prochaine autour de ceux que je viens de te citer et également de Lucas Paris, l'enfant du pays, qui avait fait un retour très très réussi la saison dernière et qui poursuit avec son club formateur. Donc pour Beaujolais Basket, la saison s'annonce et se présente sous de très bons augures pour la saison prochaine.
Voilà pour le basket.
Un dernier petit mot.
Pour le cyclisme, Eddy, peut-être en une minute rapidement.
Allez, moins que ça. Juste pour te confirmer que déjà les membres du Vélo Club Villefranche-Beaujolais ont repris la route depuis que l'entraînement est de nouveau autorisé, hein, bien sûr, et se préparent. Et on peut d'ores et déjà annoncer la première compétition pour nos cyclistes amateurs, mais en tout cas au plus haut niveau amateur, c'est-à-dire semi-professionnel. Ce sera le 3 août, avec on les verra à Fleury, le 3 août pour le retour du cyclisme en compétition. Je t'ai tout dit, Mathieu.
Une bonne nouvelle, le retour des compétitions. Merci, Eddy.
Eh bien, une bonne semaine à toi et puis à lundi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sportive.
Bah avec grand plaisir. Très bonne semaine, Eddy, et très bonne fin de journée. À bientôt.
À bientôt, Mathieu.
Salut. Allez, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre dernier invité. C'est Pierre Fezaguet du groupe Orso, groupe de rock caladois que vous connaissez forcément, j'en suis certain.
Ensemble sur Calais.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
In gold, roaring crowds in Manchester, they manage to be told, oh, and your king, the boy you loved in spring, the way she looks at him, the common goal and waiting for the kids to go, weeping, held back for half the school meetings, they've got it in for me, for all it's worth.
asking where we got our jeans, where the hell we found our coats, 'cause dirty streets these days are graced by Nikes of black and green, and headstrong boys in chinos barely grasp what that could mean, and they lie, the men that run us dry.
McKenna sur Calade avec The Key to Life on Earth, c'est son dernier morceau.
Ensemble sur Calade.
Et on retrouve tout de suite un musicien, c'est Pierre Fessaguet, guitariste et compositeur du groupe Orso. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, très très bien, vous aussi j'espère.
Bah oui, comment ça pourrait mal aller avec le beau temps qu'on a aujourd'hui
Et qui va durer apparemment.
Et oui, ça fait du bien. Alors le groupe Orso, un groupe iconique du Beaujolais, j'ai envie de dire, on vous voit régulièrement en concert, en festival dans la région, mais est-ce que vous pourrez quand même nous le présenter en quelques mots pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux?
Oui, bien sûr. Donc Orso, on existe depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes tous originaires de Villefranche et du Beaujolais, donc sauf notre bassiste qui est, lui, vient de Lyon. On existe depuis une dizaine d'années. On a sorti déjà deux albums. On fait plutôt du rock. On chante en français, de la composition, bien sûr. Voilà, plutôt proche de Noir Désir, bien rock français. On tourne pas mal sur Lyon, sur le Beaujolais. On a quelques concerts derrière nous, à notre actif, voilà. En gros.
Et des textes en français, on peut le dire, plutôt sombres en général.
Un peu sur l'actualité, texte un petit peu sombre, un peu mélancolique plutôt. C'est pas de la musique festive, on est d'accord, mais toujours en français, bien sûr. Il n'y en a aucun texte en anglais.
Et donc vous êtes compositeur du groupe et auteur aussi, il me semble.
Oui. Oui, musique et paroles, et puis les arrangements, on fait ça tous ensemble.
Et alors la période qu'on vient de vivre, là, de confinement, est-ce que ça inspire pour écrire et composer?
Oui, c'est possible. Deux, trois idées de texte qui circulent. Ça a surtout été une période de... On n'a pas fait grand-chose, puisque... pour pas la possibilité technique de répéter à distance, on était chacun confiné chez nous. Donc pour la possibilité de se retrouver au local, on a repris les répétitions la semaine dernière, donc après deux mois d'arrêt total, on était un petit peu rouillé, mais on va se reprendre doucement, il n'y a pas de souci, et pas de rire, un ou deux morceaux en prévision, mais il faut quand même déjà qu'on se remette à niveau et qu'on retravaille nos anciens morceaux, parce que deux mois sans travailler, c'est un petit peu chaud.
Et donc là, vous avez pu faire une répète, vous avez trouvé le moyen de vous...
On a recommencé la semaine dernière, on a bien respecté les règles, hein, chacun avec son masque dans son coin, et plus d'un mètre de distance. On a la chance d'avoir un local qui est quand même un petit peu grand, donc on a pris chacun un coin, on a respecté, et puis on a fait une petite répétition pour reprendre le contact, ça nous manquait, et puis ça s'est bien passé.
Ah, j'imagine que c'est quelque chose qui manque de jouer en groupe quand ça fait 10 ans qu'on fait de la musique ensemble.
ça nous manquait. Oui, effectivement, le but, c'est de faire des concerts, d'enregistrer, ça c'est le but ultime, et ce qui est vraiment agréable, c'est de se retrouver régulièrement et de travailler ensemble. Ça nous a vraiment, vraiment manqué pendant 2 mois. On était vraiment contents de se retrouver, et on a hâte de se retrouver régulièrement, et puis de recommencer à travailler, puis à préparer nos projets.
Et justement, en parlant de projet, vous avez quand même participé à quelques vidéos musicales qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux pendant ce confinement.
Oui, on a participé à deux choses, deux projets collectifs. Le premier organisé par le studio STH à Onna, notre ami Mehdi, qui a fait deux projets différents. Donc deux morceaux avec plein de chanteurs, musiciens, c'est super. Donc chacun faisait sa petite partie chez soi et... Mehdi a récolté tout ça pour faire un gros travail de mixage et de son et de vidéo avec Yo, son ami qui s'occupe de la vidéo. Donc un super travail qu'on peut trouver sur Facebook. C'est vraiment, vraiment super. Vraiment agréable de partager ça avec plein de gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas. C'était super. Et puis le deuxième projet avec le Progrès qui a mis sur le Progrès en ligne 3 diaporamas différents pour prendre des nouvelles de tous les artistes du Beaujolais, aussi bien musiciens que sculpteurs, peintres ou... C'était très très sympa aussi.
D'accord. Les concerts qui étaient prévus pour le mois de mai, même le mois d'avril, et puis les concerts à venir qui reprennent pas forcément, est-ce que vous savez s'ils sont reportés, annulés
Alors on est vraiment dans l'expectative, on a beaucoup, effectivement, c'est une belle période pour nous, enfin pour tout le monde, hein, le printemps en général. La reprise des concerts, il y avait beaucoup de choses de prévues. Donc on a des concerts qui ont été purement simplement annulés, décalés l'année prochaine. On devait participer à Rock à l'Ouest, un beau festival de Francheville, qui malheureusement est complètement annulé. D'autres sont reportés, mais on ne connaît pas encore vraiment les dates. On est aussi dans l'expectative par rapport à la nuit d'été, la fête de la musique, parce qu'on avait des engagements et on ne sait pas si ça a lieu ou pas. Voilà, on attend un petit peu. Dans notre esprit, je pense qu'on va faire un grand break et on prendra, on espère, en septembre. Sous quelles conditions, ben on ne sait pas. On verra, c'est un peu dommage parce que c'était une belle période pour les musiciens. Le printemps, l'été, c'est vraiment là où on a la possibilité de jouer. Et ben voilà, on sait pas. On attend, pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'officiel. Il y a des choses qui sont annulées simplement, d'autres qui sont décalées, mais on n'a pas les dates. Donc on attend.
Très bien, bon ben, on espère, on a hâte de vous retrouver sur scène et puis de voilà. Participer à des concerts.
C'est sympa, nous avons hâte aussi.
vous étiez venu en studio, on n'était pas par téléphone, c'était il y a un an, et vous étiez venu me présenter l'album Tout ça pour ça, votre dernier album. Je vous propose que pour se quitter, on en écoute un extrait.
Avec grand plaisir.
Merci Pierre Fessaguet du groupe Orso d'avoir passé un petit moment avec nous. On se quitte donc avec Même Si de l'album Tout
Merci
ça pour ça.
Merci pour votre invitation Mathieu.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Mais qu'est-ce que je peux faire? laisse-moi faire.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Et oui, nous voilà de retour dans la seconde partie de cette émission Ensemble sur Calade. Il est 13h25 et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On a rendez-vous dans ce temps qui nous est accordé avec Georges Botton pour sa rubrique Mais la 11e et avec Benjamin Jaïr pour nous parler de l'association Perma Cabadio. Mais d'abord, eh bien, on retrouve Bertrand Lamure de la librairie Des Marais qui nous donne son coup de cœur littéraire comme chaque semaine. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Très très bien, c'est lundi, il y a du soleil et je suis dans ma librairie. Et ma foi, voilà, je n'ai pas de quoi se plaindre.
Est-ce que tu as réussi à lâcher ton polar qui avait l'air si addictif ?
Tout à fait, John Grisham, La Sentence. Et ben ma foi, je ne pensais pas du tout que ça se terminerait comme ça. Comme quoi, très ils bien. Sont quand même très bons, ces romanciers, alors du polar, mais en général, mais là, ouais, bravo, bravo.
Ils sont forts.
Et le drame, c'est que par contre, quand on vient de lire un polar qui est très très bon, et qu'on attaque un deuxième, ce qui a été mon cas dans la foulée, bah, je l'ai trouvé complètement nul.
Ah, il a la voilà. pression, le livre
ouais.
suivant.
Ouais. C'est toujours un vrai drame, ça. Le livre suivant, il est un petit peu mort d'avance. Quoi. Mais bon.
Et puis finir un livre, moi, je trouve que c'est toujours un peu une petite déchirure. J'ai du mal à quitter les personnages.
Ah oui, quand on a aimé un livre, etc. Et quand on voit d'ailleurs qu'il nous reste 20 pages, on se dit, ça y est. Et effectivement, après, et je trouve que c'est parfois bien de prendre du temps, de même pas lire des fois pendant quelques jours pour rester encore un petit peu avec ces personnages qui sont un peu devenus des membres de la famille. Et parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire ce petit deuil quelque part de ces personnages. Donc voilà.
Alors, on papote autour du polar et des romans.
Mais en fait, il n'est pas question de polar aujourd'hui. Alors, dans la librairie, il y a un rayon, et je crois que je n'en ai encore jamais parlé. Donc, honte à moi, parce que c'est quand même un petit peu mon domaine d'origine, qui est le petit rayon histoire. Et ben comme dans toute librairie, il y a quand même un rayon histoire, hein, histoire récente, histoire ancienne, avec quand même des publications qui sont fréquentes, qui sont régulières. Et alors souvent, c'est des publications qui peuvent être en lien avec des commémorations. Donc par exemple 2020, alors même si cette fameuse année 2020 n'a pas forcément bien commencé, c'est l'année un peu de Gaulle. Alors je vais pas trop épiloguer parce que de Gaulle, on l'a un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses, je pense surtout à la rentrée, puisque on va fêter les 130 ans de sa mort, les 130 ans de sa naissance, pardon, les 50 ans de sa mort, l'appel du 18 juin, et ben voilà, ça va nous faire 80 ans. Donc voilà, je pense que là, il y a du lourd qui s'annonce.
Ça arrive sur De Gaulle. Il y a eu un film, je crois, cette année.
Je crois qu'il y a eu un film, il me semble, oui, avec
Lambert Wilson.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'avais un peu un doute sur cet acteur en tant que De Gaulle, mais il paraît que c'était pas mal du tout. Ouais. Alors, moi, je voulais évoquer juste deux ou trois historiens et deux ou trois livres qui m'ont plutôt marqué. Alors, je commence, si on remonte de très loin à aujourd'hui, avec d'abord un livre de Howard Carter. Alors Howard Carter est le fameux égyptologue qui en 1922 a découvert la tombe de Toutankhamon. Et il en avait fait, il avait écrit un peu ses mémoires après cette découverte assez complètement extraordinaire. Et il raconte jour après jour, bon d'abord tous les efforts, hein, parce qu'il a fallu quand même des années et des années pour en arriver là, mais après effectivement de la découverte de la tombe de Toutankhamon, et ben comment sur 2 ou 3 ans ils vont rentrer progressivement dans la tombe avant d'atteindre effectivement la tombe qui est extraordinaire. Il y avait une expo l'an dernier qui a été montrée en France à Paris et qui était somptueuse. Donc c'est un petit bouquin chez Libretto qui s'appelle « La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon ». Et c'est un vrai petit bijou, on est carrément dans un roman. C'est pas policier, mais je pense qu'on pourrait faire une belle enquête policière dessus.
Retrouver la dépouille de Toutankhamon.
Tout à fait. Alors, on remonte encore un peu plus dans le temps avec une historienne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Arlette Farge. Et Arlette Farge, pardon, a beaucoup écrit sur tous ceux qui, quelque part, ne font pas l'histoire. Parce que nous, on connaît les grands, les rois, etc., etc. Mais il y a quand même des millions et des milliards de personnes dont on ne fera jamais l'histoire. Mmh. Et Arlette Farge a écrit dans son dernier livre qui s'appelle « Vie oubliée au cœur du XVIIIe siècle », donc toute une série de portraits, de vies, donc de petits commerçants, de petits artisans, etc., que bien évidemment on ne connaît pas, on ne connaîtra jamais. Et voilà, c'est aussi une belle façon, d'évoquer l'histoire par ce qu'on appelle, entre guillemets, les petites gens, les petits métiers. Voilà. Donc c'est à la fois instructif sur une époque et c'est très riche pour le coup. Et c'est à mettre en lien avec un autre historien de grand talent qui s'appelle Alain Corbin et qui lui aussi a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la petite histoire, la micro-histoire, justement sur ces populations oubliées, ces habitudes, ces attitudes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt comme ça, mais au regard de l'histoire, qui peuvent être très riches. Et je continue du coup dans ma lancée sur cette thématique avec un autre historien qui s'appelle Gérard Noiriel. Alors Gérard Noiriel a passé toute sa carrière à travailler principalement autour du monde ouvrier et il a écrit un livre qui est un peu quelque part la conclusion d'une vie de recherche qui s'appelle « Une histoire populaire de la France ». Qui va globalement du Moyen-Âge à nos jours, et qui justement évoque toute cette population ouvrière, toute cette population paysanne, tous ceux qui, ce qu'on peut appeler un peu la populace, qui évidemment en histoire, parfois ont été vecteurs de profondes transformations au moment des révolutions, au moment des grandes révoltes, etc. Et là, il fait un travail très intéressant sur justement ces... cette population, et d'ailleurs la couverture est assez extraordinaire, puisqu'on voit des ouvriers qui sont en train de construire la tour Eiffel. Et c'est vrai qu'on dit que la tour Eiffel sans ces ouvriers, évidemment, on n'en serait pas là.
Ce monument d'histoire, il a été fait par plein de petites mains, comme on dit.
Voilà, on a un peu tendance à oublier comment, en fait, les grands monuments qu'on a aujourd'hui, on doit à des milliers de petites mains. Voilà. En règle générale, on retient l'inventeur, on retient parfois l'architecte. Mais on retient quand même très peu les milliers de petites mains, surtout que les conditions de travail n'étaient quand même pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis, si j'ai encore 2-3 minutes...
Peut-être un dernier livre.
Alors, un livre qui est assez attachant, qui est de Marc Ferraud. Alors, Marc Ferraud est un historien qui a déjà fait beaucoup de livres et qui a connu effectivement le succès avec ses nombreux livres et qui a fait un petit bijou qui s'appelle « L'entrée dans la vie ». Alors l'entrée dans la vie, des artistes, des politiques, des écrivains. Et c'est souvent intéressant de voir que l'enfance de certains hommes ou femmes célèbres après indique beaucoup les attitudes, les façons de faire dans leur carrière. Moi, j'ai souvent en tête l'image de Staline. Staline, dont on sait, ce pouvoir dictatorial qu'il a eu, voire sanguinaire à certains moments. Et en fait, c'est un gamin qui est né dans une pauvreté extrême, avec un père d'une extrême violence. Et quand on lit sa biographie quand il est gamin, on s'imagine qu'il y a quand même beaucoup de failles et que malheureusement les Russes ont bien connu le problème. Voilà, et alors on retrouve Chaplin, on retrouve Gandhi, Freud, etc. Et c'est un petit livre très très agréable à lire. Également en histoire, il y a beaucoup de biographies. Donc là, j'ai un peu entrouvert la porte avec l'entrée dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a de très très bonnes biographies en histoire. Et de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de se plonger dans une biographie, surtout quand elle est bien faite, quand ce n'est pas justement une hagiographie, où là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Alors, hagiographie, peut-être, moi, je ne connais pas forcément
Alors, hagiographie, en fait, c'est quelqu'un qui va faire une biographie, mais il adore tellement le personnage qu'il va décrire que ce personnage n'a fait que des choses extraordinaires. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que automatiquement, comme tout personnage historique, il y a des failles, il y a des erreurs.
C'est ça qui est intéressant.
Voilà, donc une vraie biographie qui essaie de montrer les parts d'ombre, mais également les parts de lumière d'un personnage. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, sans forcément partir dans des personnages historiques, il y en a une dernièrement qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qu'a fait Robert Badinter sur sa grand-mère, Idis. Ça se lit presque comme un roman, parce que donc Idis, sa grand-mère, pas un personnage historique, hein, elle est mise en lumière que parce que son petit-fils est un personnage important aujourd'hui et sera un personnage historique. Idis, c'est une femme qui est née dans ce qu'on appelle au 19e siècle le Yiddishland, c'est-à-dire toute cette Europe de l'Est où il y avait de grandes communautés juives. Elle est née dans une profonde pauvreté, en étant très fortement maltraitée, parce que on est encore à l'époque des pogroms, c'est-à-dire des grandes des grands fléaux contre les juifs qui étaient faits en particulier par l'Empire russe. Et elle va réussir à s'en sortir, elle va réussir à partir, elle va réussir à s'exiler, elle va réussir à arriver à Paris, où elle va connaître une autre vie. Progressivement, il va y avoir une ascension sociale. Et elle va décéder en 1942, en plein justement moment où les Juifs sont de nouveau pourchassés. Donc c'est vrai que c'est un destin assez formidable. C'est un roman, si je trouve que ça se lit comme un roman. Alors, il y a peut-être un soupçon d'hagiographie dans les propos de Robert Badinter, parce que c'était sa grand-mère, mais je trouve que ça se lit vraiment très très bien. Il y a de très belles choses à trouver dedans. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que le rayon histoire, il y a toujours de vraies petites pépites, hein, qu'on remonte au premier temps de notre histoire, ou qu'on soit dans l'actualité la plus récente, hein, puisque l'histoire, quelque part, n'a que quelques années. Et voilà, donc je trouve que de temps en temps, quand on aime l'histoire, c'est chouette de se replonger dedans, surtout qu'on parlait en début de chronique du polar. Il y a de plus en plus de polars historiques, et là aussi c'est intéressant, parce que en dehors d'une enquête policière, on apprend toujours quelque chose sur une période donnée. Et voilà, il y a de belles choses, j'en avais déjà un peu parlé, mais il y a de belles choses qui se font là-dessus.
Eh ben, on ira découvrir le rayon histoire de la librairie des Marais. Merci beaucoup Bertrand pour ces
avec
conseils lecture. Et moi, eh ben, j'ai été inspiré par cette histoire là sur l'entrée dans la vie de Marc Ferro. Je vous propose d'écouter tout de suite un titre de Philippe Catherine qui nous parle de l'enfance des dictateurs. Ça s'appelle tout simplement Les Dictateurs. À bientôt Bertrand.
À bientôt. Bonne journée.
Et oui, les dictateurs étaient tous de très beaux bébés, c'est ce que nous chante Philippe Catherine, allez savoir ce qu'il voulait dire par là.
Ensemble sur le Calade.
Nous sommes ensemble sur Calade, effectivement, et celui qui est ensemble avec nous également, c'est Georges Botton. Bonjour Georges, comment vas-tu ?
Bonjour Mathieu, ça va très bien, je te remercie, et toi ?
Eh ben, oui, ça va bien, ça va bien.
Le week-end a été bon.
Oui, beau week-end, j'ai bien pu en profiter, ça fait du bien. Alors Georges, tu nous proposes chaque jour dans cette rubrique Mai la 11e, une petite pépite jazz, un morceau que tu as dans ta grande collection de CD. Que nous as-tu concocté aujourd'hui ?
Alors, je vous ai contacté. Bonjour à mes auditeurs d'abord et bonjour à mes auditrices. C'est la moindre des politesses de vous saluer.
C'est vrai, ne l'oublions pas.
Je vous ai contacté, chers amis, un très beau morceau de jazz traditionnel en New Orleans, le style New Orleans. Le morceau s'appelle Perdido Street Blues. Il est interprété par le New Orleans Wanderers. Les musiciens sont Jean Mitchell au cornet, Kid Ory au trombone, Johnny Doss à la clarinette, Lil Armstrong au piano. Je rappelle que Lil Armstrong a été l'épouse de Louis Armstrong. C'était, paraît-il, une femme remarquable. Et Johnny Saint-Cyr au banjo. L'enregistrement de ce morceau date du 13 juillet 1926 et je rappelle également que 1926, c'est l'époque d'or, D'OR, où Louis Armstrong a enregistré à Chicago ses chefs-d'œuvre avec ses deux groupes, le Hot Seven ou le Hot Five. Le morceau que je vous mets maintenant s'appelle Perdido Street Blues et je voudrais dire deux mots de Johnny Dodds, qui est le responsable du groupe et a été un très grand clarinettiste. Johnny Dodds est né en 1892 à la Nouvelle-Orléans, décédé en 1940 à Chicago, il a vécu 48 ans, il a pris des leçons de clarinette avec Lorenzo Dio Junior, Et il a débuté à l'âge de 19 ans dans l'orchestre de Kidori. Il a joué de 1911 à 1918 à peu près. Ensuite, il s'est entraîné sous le Riverboat de Fatma Rebol. Fatma Rebol, c'est un des chefs de groupe musicaux qui jouait sur les bateaux des Rois Aube sur le Mississippi. Et puis, Johnny Dodds a joué avec King Oliver à Chicago en 1920. Et ensuite, c'est là où il s'est fait vraiment connaître. Il a joué avec Louis Armstrong dans les Hot Five et les Hot Seven, ces deux fameux groupes mythiques, si j'ose dire. Malheureusement, Johnny Dodds est décédé d'une crise cardiaque, donc à 48 ans. C'est un remarquable clarinettiste. Il a un jeu très âpre, très méchant même, comme on dit, violent. Et il avait la sagesse et l'intelligence d'accompagner d'une façon extrêmement subtile les musiciens qui jouaient avec lui, en particulier ceux de la section mélodique, c'est-à-dire les trompettistes ou les trombonistes. Il a également, il faut le reconnaître, beaucoup inspiré de beaucoup de clarinettistes, et en particulier en France, l'excellent clarinettiste Claude Luther. Alors vous verrez dans ce morceau, très rapidement, d'abord c'est une curiosité, il n'y a pas de section rythmique, où elle est très réduite, puisqu'il n'y a ni guitare, ni batterie. Vous verrez une sobriété de tous les solos, le cornet, le banjo, le trombone, et également la sobriété du solo de Johnny Dodds, rageur et plein d'apprêté. Par contre également, l'harmonie d'ensemble de ce morceau est parfaite. Alors voici donc Perdido Street Blues par le New Orleans Wanderers. Et moi, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, et toi Mathieu aussi, je vous dis à demain.
À demain Georges, merci beaucoup.
À demain.
Salut. Thank you. Perdido Street Blues par les New Orleans Wanderers. C'était le choix musical de Georges Botton pour sa rubrique, mais la 11e. Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Calade.
Et oui, nous sommes ensemble sur Calade et tout de suite nous retrouvons Benjamin Jaïr de l'association Perma Cabadio. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, ça va pas mal, il y a du soleil, on est à fond, bon début de semaine.
L'association Perma Cabadio, anciennement elle portait un autre nom, c'était IEFR. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette association ?
Oui, bien sûr. Donc, le nom, il était une fois une rencontre, IEFR a évolué vers Perma Cabadio en 2018 parce que les projets ont évolué, les choses ont évolué et les mentalités aussi en Afrique de l'Ouest. On parle moins d'assistanat, on est vraiment sur des projets construits et on vise à lutter contre l'exode des jeunes. Voilà, donc tous ces jeunes qui essayent de se rapprocher de l'Europe, on essaye de leur trouver plutôt une solution pour se fixer, pour rester dans leur pays, notamment la Guinée, le Sénégal, la Gambie. Et pour apprendre justement à pouvoir y vivre sans être forcé de quitter et dans des conditions parfois très difficiles.
Par des moyens qui peuvent être dangereux, bien souvent.
Oui, tout à fait. La voie illégale, on est vraiment en train de bosser là-dessus avec des anthropologues, mais à travers le Maroc ou la Libye, c'est vraiment des parcours du combattant et ça passe ou ça casse en fait.
Et les solutions que vous avez imaginées et trouvées pour permettre à ces jeunes de ne pas avoir envie de quitter le pays et de préférer rester chez eux, quelles sont-elles ?
Les solutions, elles sont venues suite à un peu une étude de besoin ces dernières années avec un fort taux d'exode chez les jeunes. Et en parallèle, un fort taux d'échec scolaire. Donc, c'est un petit peu ces deux données là qui nous ont permis de réfléchir. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes n'avaient plus de fierté, n'avaient plus la fierté de pouvoir nourrir leur famille, n'avaient plus la fierté de pouvoir construire leur propre famille dans des conditions d'après-guerre, puisque la Casamance, depuis les années 80, était en conflit armé, un conflit indépendantiste. Donc, ça secoue quand même pas mal de jeunes et toutes ces dernières générations. Et ça les rend un petit peu jaloux, un petit peu envieux de la situation que leurs cousins ou que la diaspora africaine vit en Europe. Mmh. Et ça lui donne envie à cette génération-là de quitter le pays et de prendre des pirogues ou des chemins clandestins pour arriver en Europe. Et donc du coup, quand on a étudié un petit peu ça, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de retrouver cette fierté, de ce besoin de pouvoir renourrir la famille. Et comme on avait déjà pas mal avancé sur le maraîchage et la permaculture, et notamment l'agroécologie aux côtés de Pierre Rabhi principalement, eh bien du coup, on a décidé de créer un lieu pour les former. Et depuis 3 ans, on forme des jeunes, maintenant jusqu'au Gabon, pour leur permettre justement de jardiner autrement, avec très peu de moyens, mais aussi en parlant d'écologie et en parlant de savoirs ancestraux, donc de retrouver un petit peu ce que leurs grands-pères ou leurs parents faisaient avant l'arrivée des pesticides et avant l'arrivée des semenciers qui ont inondé aussi l'Afrique avant de passer par chez nous.
Donc c'est apprendre une agriculture qui n'est pas une agriculture de masse, mais une agriculture raisonnée et durable.
Tout à fait. On est vraiment sur l'agriculture permanente, la permaculture, qui associe aussi la culture traditionnelle, donc qui détache en rien ce qui vit habituellement dans le village, les traditions, les rythmes, les danses, etc. Tout est lié, et donc du coup, en grand respect de la vie de tous ces gens-là, eh bien, on y mêle le maraîchage, on y mêle l'agroforesterie aussi, puisque l'objectif, c'est de lutter contre la déforestation et de reboiser intelligemment, de reboiser des forêts qu'on appelle des forêts nourricières, puisqu'on arrive aujourd'hui à l'ombre d'arbres fruitiers à faire pousser du maraîchage, des légumes, et donc de se nourrir de petites surfaces. Sur 400 mètres carrés, on est capable de nourrir une vingtaine ou une trentaine de personnes aujourd'hui.
Et donc ça, c'est l'association Perma Cabadio qui a mis en place ce lieu d'apprentissage où vous proposez à des jeunes d'Afrique de venir apprendre donc ces techniques. Mais l'association fait pas que ça. J'ai fait un tour sur votre site internet là récemment. J'ai vu plein de projets qui se sont mis en place, notamment une ambulance récemment, un puits. Comment est-ce que tous ces projets peuvent prendre vie?
Bah c'est assez simple. On a gardé la mentalité de la solidarité internationale, de ces associations d'entraide. C'est-à-dire que nous, depuis 20 ans, avec l'association IEFR, on fonctionnait selon un principe qui était celui de la demande et du besoin. Et on a toujours été, et on continue d'être à l'écoute des populations. Et quand le dispensaire du village, quand les associations et les comités de santé des villages avoisinants viennent me voir et me donnent un petit peu le nombre d'enfants qui décèdent chaque année par manque de possibilité de se rendre urgemment à l'hôpital le plus proche, c'est-à-dire à 125 km, et me demandent une ambulance, bah, quand je rentre en France, il suffit de tapoter sur Facebook « recherche une ambulance » et aujourd'hui on trouve une ambulance assez facilement. Et du coup, bah là, effectivement, dernièrement, on a envoyé une ambulance avec énormément de matériel médical et paramédical dedans, qui va arriver là, normalement, aujourd'hui ou demain, d'ailleurs.
Ah oui.
Elle est au port de Panjul, en Gambie, le pays d'à côté. Et on attend la fin de la fête de la fin du Ramadan pour pouvoir ouvrir le port et récupérer l'ambulance. Donc ça se fait assez facilement. Dans le principe, ce qui est le plus difficile, c'est de collecter les fonds nécessaires pour ce genre de projet, puisque la solidarité, d'une manière générale, est toute chamboulée ces dernières années par l'individualisme de nos concitoyens, et en tout cas plein d'autres intérêts d'activité, de consommation, qui font que c'est de plus en plus difficile de trouver des fonds pour ce genre de projet.
Et justement, vous faites en ce moment même un appel à solidarité, et notamment, tout simplement, un appel à adhérer à l'association Perma Cabadio. Qu'est-ce que ça veut dire, adhérer à l'association?
En fait, on est parti là sur une idée, pour certains projets, notamment l'accès à l'eau pour le village et les cultures, de passer par des ONG et des appels à projets de différentes fondations. Alors bien sûr, en faisant attention à l'éthique, on ne va pas demander de l'aide à Suez ou à des gros groupes comme ça qui font du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer des actions par des actions humanitaires, de récupérer un peu d'audience verte et positive.
On fait un petit truc écolo d'un côté, et pendant ce temps, on fait des choses pas forcément vertes, pas forcément propres, mais on met l'accent sur ce qu'on fait de bien. C'est ça, le greenwashing.
Voilà, c'est tout à fait ça, voilà, la définition est pas mal comme ça, donc du coup ça on évite, voilà. Mais par contre on se retrouve avec des ONG comme Électriciens Sans Frontières par exemple, qui travaillent avec des lycées, notamment le lycée Branly à Lyon et un lycée à Ziguinchor en Casamance, pour former de jeunes électriciens aux techniques de l'énergie solaire. Alors moi je suis pas un adepte de l'énergie solaire en soi, mais quand on voit qu'en Afrique il y a 8 à 10 mois en Afrique de l'Ouest de soleil par an, ce serait dommage de se priver de ça. Et donc du coup là l'idée c'est de faire grossir un petit peu l'association, donc on offre une adhésion à tous ceux qui le souhaitent, et tous, donc c'est-à-dire les auditeurs, tous les gens de la Calade et des environs, et on offre cette adhésion parce que c'est pas sur les fonds de cotisation que l'association vit, mais plutôt sur le fait qu'on a besoin d'adhérents sympathisants. Donc aucune contrainte d'être adhérent, on va pas les embêter avec des assemblées générales à répétition, etc. Mais c'est plutôt de dire, ben voilà, moi je suis sympathisant de ce projet, je donne mon accord pour adhérer, et du coup, ben nous, quand on présente un dossier de subvention ou quand on demande de l'aide à une grosse ONG, et ben on peut leur dire, voilà, on a 100, on a 200, on a 300 adhérents, et on pèse un petit peu plus lourd dans la machine, et c'est aujourd'hui ce qui compte beaucoup pour passer les premières étapes en présentant ces dossiers.
Donc au niveau de l'investissement personnel, ça équivaut à signer une pétition et ça permet de pour vous de débloquer, j'imagine, plein de choses et de mettre en place plein de projets.
Voilà, c'est un engagement. En fait, le mot engagement, c'est un peu celui qu'on oublie là en ce moment. Alors, c'est revenu pas mal en force avec le Covid-19. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés aux côtés de leurs concitoyens. Mais l'engagement, c'est ça aussi. C'est de se dire, OK, bah, je mets mon nom sur ce projet et en mettant mon nom, bah, je lui donne un peu plus de force. Je verse pas 1 euro, 10 euros, 100 euros. Ça, je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je peux. Bien sûr, on refusera jamais une aide financière. Mais quoi qu'il en soit, en m'engageant personnellement, ben je sais que je peux lui apporter soutien.
Et pour vous soutenir, donc, on peut vous retrouver sur votre site internet, tout simplement. C'est www.permacabadio.com.
Tout à fait. On aime bien aussi utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils sont plus vivants au quotidien. On utilise beaucoup, notamment Instagram, parce qu'on peut présenter aussi de belles photos, de belles images, ça fait toujours plaisir. Mmh. Et puis Facebook, donc ça se retrouve tout autour du même mot, Perma Cabadio, Cabadio avec un K. Et donc vous pouvez surfer sur différentes pages pour avoir plein d'informations et éventuellement aussi vous rendre un jour à Cabadio en formation de permaculture. Ou en Workaway, c'est un woofing international qui permet d'être nourri, logé, et en échange de participer aux travaux quotidiens des champs.
Donc l'association Perma Cabadio, on vous retrouve donc sur votre site internet, les réseaux sociaux. Merci beaucoup Benjamin Jaïr d'avoir participé à cette émission.
Merci Mathieu, au plaisir, merci à tous.
On est un petit peu en retard sur Calade, mais c'est pas grave, c'était important d'en parler.
Calade.
Il est 14h. Voilà, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. On se retrouve demain de 12h à 14h pour encore passer un bon moment en direct. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne après-midi et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.